l'heure des enjeux internationaux. Réunis hier en urgence après les attaques russes de lundi contre l'Ukraine, les pays du G7 ont appelé les autorités biélorusses à arrêter de permettre aux forces armées russes d'utiliser son territoire pour faire la guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, le régime d'Alexandre Loukachenko affiche sa complicité avec les maîtres du Kremlin. L'annonce d'une force militaire commune entre Moscou et Minsk n'en est que le dernier exemple. Depuis février dernier, la Biélorussie a régulièrement servi de base arrière pour les troupes russes déployées en Ukraine. Alors, dans un effet miroir, l'opposition biélorusse lie de plus en plus son destin à celui de l'Ukraine. Depuis l'extérieur du pays, la résistance contre Loukachenko passe par le soutien aux Ukrainiens. Comment Poutine a-t-il vassalisé Loukachenko, mais aussi comment les oppositions plurielles biélorusses en exil ou sur le sol biélorusse s'organisent-elles et s'impliquent sur le sol ukrainien? Eh bien, pour répondre à ces questions, nous sommes ce matin avec Ronan Hervouet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et membre du centre Émile Durkheim, actuellement en poste à Prague. Ronan Hervouet, la Biélorussie de Loukachenko est impliquée dans la guerre en Ukraine depuis les premières heures de l'invasion. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la place qu'a pris Minsk dans le dispositif d'invasion de l'Ukraine fin février 2022 d'une part, et comment cette opération entre Minsk et Moscou s'est accentuée, cette coopération s'est accentuée ces derniers mois?
Oui, avant le déclenchement de la guerre, le 24 février, déjà des troupes russes qui ont manœuvré sur le territoire biélorusse. Hein, il y avait un prétexte d'un exercice militaire conjoint. Et puis le 24 février, la Biélorussie a servi de base arrière pour la Russie, qui a pu lancer depuis la Biélorussie des blindés, des troupes aéroportées censées s'emparer de Kiev. Il faut rappeler qu'il y a une frontière d'à peu près 1000 km entre la Biélorussie et l'Ukraine, et qu'entre Kiev et une ville importante du sud de la Biélorussie, Gomel, il y a seulement 250 km. Donc depuis février, la Biélorussie a une place importante dans le dispositif militaire russe d'attaque de la Biélorussie, et notamment ces derniers temps des lancements de missiles ou de drones. Lundi dernier, des drones qui se sont abattus sur Kiev ont été lancés depuis le territoire biélorusse. On peut aussi rappeler que le 27 février, donc 3 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il y a eu un changement de la Constitution, un référendum qui appelait au changement de la Constitution en Biélorussie et qui a abouti, enfin un référendum truqué hein, pour aller vite, qui a abouti à l'abandon du statut de territoire dénucléarisé de la Biélorussie, hein, qui donc laisse la possibilité d'installer des armes nucléaires sur le territoire biélorusse, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas il y a eu un changement aussi de ce point de vue-là. Donc pour la Russie, c'est véritablement un enjeu stratégique. Mais jusqu'ici, Loukachenko n'a pas fait participer ses propres troupes à l'attaque de l'Ukraine.
Pour bien comprendre comment la Biélorussie s'est retrouvée à ce point vassalisée à Moscou, il faut aussi revenir à l'été 2020 et aux élections présidentielles qui ont entraîné un mouvement de contestation sans précédent du pouvoir biélorusse. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là?
Il faut vraiment rappeler tout ce qui se passe en Biélorussie aujourd'hui est vraiment lié à 2020. En 2020, le 9 août, il y a eu des élections présidentielles. Svetlana Tikhanovskaya s'est présentée contre Loukachenko, a suscité un enthousiasme très important dans la population. Les résultats ont accordé 80% de voix pour Loukachenko, donc les fraudes ont été massives, et ça a déclenché un mouvement de protestation sans précédent hein, dans l'histoire de la Biélorussie, avec des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté pendant des semaines et des mois même en Biélorussie. Loukachenko a choisi la répression, une répression d'une ampleur inégalée, terrible, brutale, féroce, avec milliers d'arrestations. Actuellement, on a plus de 1300 prisonniers politiques en Biélorussie. Plus de 40 000 Biélorusses ont fait des séjours en prison. La répression a isolé la Biélorussie par rapport à l'Ouest, pour le dire vite, puisqu'entre 2014 et 2019, on avait eu une forme de normalisation dans les relations avec les pays occidentaux. Avec la répression de 2020, il y a eu évidemment un isolement de la Biélorussie, ça s'est accentué avec, je vous rappelle, le détournement de l'avion Athènes-Vilnius, et puis ensuite l'instrumentalisation des mouvements de migrants provenant du Proche-Orient à l'été 2021. Tout ça a fait que la Biélorussie s'est retrouvée isolée, s'est tournée donc uniquement vers la Russie, hein, qui la soutenait, mais avec laquelle les relations étaient parfois un peu tendues. Et aujourd'hui, on peut considérer que la Biélorussie, Loukachenko, est en grande partie vassalisée par le Kremlin.
Et un événement hein, qui illustre cette vassalisation que vous évoquez, c'est par exemple la dernière visite de Loukachenko en Abkhazie, un territoire qui avait pris son indépendance de la Géorgie pour se rapprocher de Moscou. Et cette visite, ce territoire que Loukachenko ne voulait pas reconnaître, et bien finalement Vladimir Poutine a réussi à attirer le président biélorusse dans ce territoire, ce qui est un signe de vassalisation. La répression, vous l'évoquiez, des milliers de cas d'arrestation et de torture avait eu raison donc de la contestation en Biélorussie, entraînant 2 à 300 000 Biélorusses sur les routes de l'exil sur les 9 millions d'habitants, et le pays dans une position de soumission à la Russie. Cette opposition en exil s'est notamment constituée autour de la figure de Tikhanovskaya que vous avez évoquée, Renan Hervouette, et qui est liée au destin de la Biélorussie à celui de l'Ukraine. Comment la guerre est venue bouleverser le calendrier de cette opposition ?
La guerre a bouleversé de cette opposition, puisque jusqu'ici, cette opposition en exil a organisé autour de Svetlana Tikhanovskaya, hein, qui a dû quitter la Biélorussie 2 jours après les élections en août 2020. Elle était à Vilnius dès le 11 août 2020, puisqu'elle a été menacée dans le pays. Le destin est lié, puisque combattre Loukachenko, c'est d'une certaine manière combattre aussi Poutine qui a soutenu fortement Loukachenko hein, au moment de la répression. Et désormais, l'enjeu national est devenu un enjeu géopolitique, puisque les destins de la Russie, de la Biélorussie et de l'Ukraine sont complètement liés. Donc effectivement, aujourd'hui, le combat de l'opposition en exil, c'est plus seulement un combat contre Loukachenko, c'est un combat contre la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, récemment, Tikhanovskaya l'a lancé en disant très clairement hein, que ces destins de la Biélorussie et de l'Ukraine sont liés. Elle le répète dans plusieurs de ses déclarations. Et elle condamne la guerre régulièrement, tout comme elle condamne le régime de Loukachenko, et comme derrière, elle condamne le soutien de Poutine à Loukachenko et la décision de Poutine d'envahir l'Ukraine.
Svetlana Tikhanovskaya qui est installée donc aujourd'hui en Pologne avec un cabinet de transition qui est complètement constitué. Cette opposition dans l'exil, Renan Hervouette, elle est également représentée par le réseau BIPOL, qui est constitué d'anciens officiers de sécurité du régime biélorusse, qui se sont, à la faveur de la guerre en Ukraine, lancés dans une opération qui s'appelle Peremoga et qui est destinée à faire chuter Loukachenko. Qu'est-ce qu'on connaît de ces activités et de leurs liens avec, d'ailleurs aussi, l'autorité de Tikhanovskaya, de ce réseau?
Alors, BIPOL, c'est une organisation d'anciens officiers hein, des services de sécurité qui sont retournés contre le régime de Loukachenko, qui sont en exil et qui essaient d'organiser depuis l'exil des actions de résistance contre le régime.
Combien sont-ils ?
Ils sont une poignée visible. Après, l'organisation elle-même, c'est difficile d'avoir des informations. Mais ils ont des figures qui sont, il y a certaines figures qui sont publiques, qui apparaissent publiquement et qui interviennent. C'est pas, il y a plusieurs personnes qui apparaissent. Le plan qu'ils ont organisé s'appelle Peremoga en biélorusse, donc la victoire. L'idée est d'organiser depuis l'extérieur, de se préparer au fond à un mouvement de contestation pacifique, d'être prêt le jour où la situation permettra éventuellement de contester à nouveau dans la rue, puisqu'aujourd'hui c'est absolument impossible. Ce mouvement donc sera organisé. Le BIPOL dans ce programme, enfin dans cette organisation Peremoga estime qu'elle a contacté à peu près 200 000 Biélorusses qui se sont contactés via des chatbots, donc qui sont repérés, qui sont prêts à agir. si la situation est favorable. Et puis, ils ont aussi organisé des actions de soutien à des actions de sabotage, notamment au printemps en Biélorussie, hein. Il y aura eu plusieurs dizaines d'actions de sabotage de lignes de chemin de fer, ce qu'ils ont appelé la bataille du rail. Le but étant de freiner ou de gêner le déplacement du matériel militaire russe en Biélorussie. Donc il y a une véritable organisation qui se met en place. Après, la puissance de cette organisation est difficile évidemment à estimer. Le lien
Effectivement.
avec le cabinet de transition, c'est qu'un des responsables de Baïpol est directement dans le cabinet de transition, hein. Le plan Pyramoga a été reconnu et soutenu par Tikhanovskaya.
Et ceux qui rejoignent d'ailleurs les rangs de l'organisation, on se voit promettre un poste au sein du futur ministère des Affaires intérieures, ce que l'opposition prépare dans l'éventualité d'un changement de régime. Juste pour apporter une précision à ce que vous disiez, c'est que Baïpol avait modifié les feux de circulation donc des trains en Biélorussie pour perturber donc ce que vous disiez l'acheminement des troupes et du matériel russe en Biélorussie. Il faut dire aussi un mot des nombreux activistes militants des droits de l'homme qui sont restés, eux, en Biélorussie. Est-ce qu'ils ont encore un espace pour s'organiser et s'opposer au régime de Loukachenko, organiser la dissidence? Et si oui, par quel type d'action, Ronan Hervouet?
Très honnêtement, la répression est telle à l'intérieur du pays qu'il semble quasi impossible, hein, de s'organiser et de résister. Le 27 février, le jour du référendum et 3 jours après l'invasion de l'Ukraine, des personnes ont essayé de manifester en Biélorussie pour s'opposer à la guerre, s'opposer à ce référendum. Mais surtout s'opposer à la guerre en Ukraine. Et ce jour-là, il y a eu 800 arrestations. 800 arrestations après 1 an et demi de répression, de mise en prison, de condamnation et de contrainte à partir en exil pour beaucoup. Donc aujourd'hui, ça paraît vraiment très difficile à l'intérieur du pays de s'opposer au régime. Certains, évidemment, continuent à travailler pour des ONG comme Viasna, l'Organisation de défense des droits de l'homme. Qui a été fondée par Alès Bialatski, qui a reçu le prix Nobel avec Mémorial et le Centre pour les libertés civiles en Ukraine il y a quelques jours. Donc il faut un courage très important aujourd'hui pour s'opposer, mais malheureusement le degré de répression est tel qu'il est difficile de pouvoir véritablement identifier des formes d'action efficaces pour s'opposer au régime.
Aujourd'hui, il y a 1300 prisonniers politiques qui sont enfermés dans les geôles du régime, dont le militant que vous venez de citer, Alès Bialatski, qui incarne donc la révolte et qui a dit, comme vous l'avez dit, qui a reçu le prix Nobel de la paix vendredi, avec l'ONG russe Mémorial et le Centre ukrainien pour les libertés civiles. Comment Alès Bialatski a incarné cette résistance?
Bialatski incarne cette résistance puisque c'est une forme de droiture morale. Il a fondé en 1996 l'association Viasna, Défense des droits de l'homme. En 1996, au moment où il y a vraiment un tournant dans la dimension autoritaire du régime de Loukachenko, hein, qui avait été élu en 1994, son but est de défendre les droits de l'homme. Il le fait de manière rigoureuse, collective. Et il a, entre 2011 et 2014, déjà été emprisonné pendant 3 ans. En 2020, il participe au conseil de coordination de Tikhanovskaya, hein, qui a été mis en place au moment des grands mouvements sociaux et citoyens et politiques d'août 2020. Il était d'ailleurs avec un autre prix Nobel dans ce conseil de coordination, prix Nobel biélorusse Alexievitch. Alexievitch, elle, par exemple, est partie en exil parce qu'elle avait des fortes pressions de sa sécurité risquée d'être arrêtée. Lui est resté dans le pays. Il est resté dans le pays et en juillet 2021, il a été arrêté. Donc, il incarne ce courage, ce souhait de se battre à l'intérieur du pays pour les droits des citoyens biélorusses.
Merci beaucoup, Ronan Hervouet. J'aurais aimé encore en savoir davantage avec vous, et notamment pour évoquer, par exemple, le bataillon de volontaires Kastus-Kalinowski, qui sont des Biélorusses qui combattent aux côtés des Ukrainiens. On en parlera, j'espère, une prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans les enjeux territoriaux, je rappelle, et internationaux surtout. Je rappelle que vous êtes professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux et membre du Centre Émile Durkheim, actuellement en poste à Prague.
France Culture, l'esprit d'ouverture.